France Culture.
Olivier Grondeau, l'un des trois otages français de la République islamique d'Iran, est récemment sorti de l'anonymat, condamné à 5 ans de prison ferme pour espionnage et complot contre la République islamique. Il purge aujourd'hui cette peine dans la prison d'Evin de Téhéran, dans l'aile des étrangers et des binationaux. Il a pris la parole au nom des deux autres otages français en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris. Alors que peut l'État français pour les libérer aujourd'hui? Que peut l'État français plus généralement face à cette diplomatie des otages? Pour en discuter, trois invités ce soir. Thérèse Grondeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la mère d'Olivier Grondeau, vous êtes membre du collectif Liberté pour Olivier, un collectif animé par les amis et l'entourage d'Olivier. Je vous remercie très chaleureusement d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Fariba Adelka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, chercheuse aux séries à Sciences Po Paris, vous êtes spécialiste de l'Iran. Vous avez été arrêté en juin 2019 et accusé d'espionnage, de collusion contre la sécurité nationale en Iran. Vous avez été libéré en février 2023 et vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « Prisonnière de Téhéran » paru en 2024 aux éditions du Seuil. Avec nous également Shirine Ardakhani. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes avocate de Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix 2023. Vous êtes avocate également d'Olivier Grondeau et présidente de l'association Iran Justice. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce soir dans Question du Soir.
Je m'appelle Olivier. Je suis retenu en otage depuis 2 ans et 3 mois par le gouvernement iranien. Elle s'appelle Cécile, il s'appelle Jacques. Ils sont retenus en otage depuis 2 ans et 8 mois par ce même gouvernement. Cécile, Jacques et moi avons été placés au cœur d'un chantage politique qui ne nous concerne en rien et qui nous laisse à bout de force. Je prends ma parole depuis ma cellule de la prison centrale de Téhéran. J'y purge une peine de 5 ans pour espionnage. Je suis innocent. Le tribunal qui m'a condamné ne disposait d'aucun élément à charge. Quant à Cécile, quant à Jacques, ils survivent depuis plus de 2 ans et demi, séquestrés dans les locaux des services de renseignement. Ma propre expérience de 2 mois dans ces mêmes locaux me permet d'affirmer que les souffrances psychologiques et les carences qu'ils y subissent les placent en grand danger.
Des mots signés Olivier Grondeau, un appel exprimé depuis sa prison en Iran, exprimé en décembre dernier. Et je voudrais citer un extrait de la tribune qu'il a fait paraître il y a quelques jours dans le journal Le Monde. Il écrit « L'innocence, point, cette chose éblouissante, cette chose aveugle, quelle innocence. Il ne s'agit pas ici de l'établir, mon innocence est tout établie. Je ne suis rien d'autre qu'une monnaie d'échange, nos ravisseurs s'en cachent à peine et les juges l'avouent. Vous à huis clos, mais est-ce que cela suffit? Qu'a-t-on dit de l'innocence une fois qu'on l'a prouvé? J'ai rencontré l'innocence le 12 octobre 2022. Fin de citation. Thérèse Grondeau, vous êtes la mère d'Olivier Grondeau. Que s'est-il passé alors le 12 octobre 2022 pour votre fils?
Ce jour-là, il a été arrêté dans son auberge de jeunesse. Il était en train de se raser tranquillement, le soleil était là, le petit chat en train de jouer, enfin, la vie se déroulait normalement. Et tout à coup, il a vu 3 ou 4, je ne me souviens plus, hommes qui sont arrivés, habillés différemment des touristes, on va dire peut-être une chemise, un pantalon, et ils lui ont demandé qui il était. Il a dit « Je suis Olivier Grondeau ». Et il n'avait aucune idée qu'on venait pour lui. Et ils l'ont emmené. Et voilà. Et depuis, il est prisonnier.
Il est accusé d'espionnage.
Accusé d'espionnage.
Qu'est-ce qui, à cette époque-là, au moment de son arrestation, dans les semaines qui ont précédé, est-ce qu'il y a des éléments qui auraient pu penser qu'il effectuait justement un travail d'espionnage?
Non, Olivier n'a pas de téléphone, pas d'appareil photo. C'est un grand voyageur. Il voyage à pied et en stop. Un espion comme ça, je sais pas, mais ça me paraît un peu... il est poète, il est écrivain, il est très loin de tout ça. Très loin de tout ça.
Fariba Adelka, est-ce que cela résonne avec votre propre arrestation, une arrestation qui a eu lieu le 5 juin 2019 en Iran? Ce qui frappe dans l'histoire d'Olivier Grondeau, c'est l'arbitraire total qui semble tomber contre lui. Est-ce que c'est cet arbitraire-là qui vous a frappé, vous aussi, votre mari, au moment de votre arrestation?
C'est de toute façon de l'arbitraire. Donc maintenant, je pense que ce n'est pas la charge d'espionnage sur lui. Et si je ne me trompe pas, il s'agit de 5 ans de prison. Quand il y a la charge d'espionnage, c'est le nombre d'années de prison est beaucoup plus élevé. Je ne sais pas.
Transmission d'informations à l'étranger. Collecte d'informations est remise à une puissance étrangère.
Donc c'est vraiment différent. Alors évidemment, c'est le moment le plus pénible quand on apprend que les accusations, la raison pour laquelle on est arrêté et qu'on ne s'y retrouve pas du tout. Évidemment, dans ce qui a été dit par Olivier, je m'y retrouve parfaitement et surtout le message qu'il m'a envoyé aujourd'hui, sachant que j'allais intervenir aux côtés de sa mère. Il a vraiment, c'était un message très, très touchant, très émouvant, parce qu'il parle comme un chercheur. On voit qu'il est très structuré, très intelligent évidemment, mais très structuré, pas du tout à la dérive. On a quelqu'un qui est en possession de toute sa capacité intellectuelle. Donc il transforme la prison en un lieu de recherche. C'est ce que nous faisons tous, je crois. Mmh. C'est un peu notre façon de pouvoir faire face à cet arbitraire auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Donc c'est un peu notre seule arme. Je pense que la prison, l'espace de la prison, c'est aussi ce lieu où la prisonnière, elle n'a pas envie de se, elle, parce que je parle que des femmes, ils n'ont pas envie de se réduire à ce pouvoir qui les arrête, à ce pouvoir qui est injuste, donc l'innocence face auquel on a besoin d'exprimer son innocence. Donc pour ne pas se réduire à cette arrestation, en fait, voilà, c'est là où on invente toutes les formes possibles et imaginables et très différents les uns des autres. Olivier, avec ses recherches, dans son message très émouvant, il me parlait justement à son projet de M1, Master 1 et puis de Master 2. Et très joli, de façon très élégante, il me dit qu'il a perdu ses notes, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas été restitués, entre Shiraz et Téhéran, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas été restitués ou qu'ils ont été confisqués, il dit tout simplement, avec une élégance magnifique, un vrai chercheur, quoi, comme ses notes étaient perdues. Et donc, il continue de réfléchir pour son M2 et il m'écrit en tant que, voilà, comme pratiquement comme un collègue. Il parle avec une voix enjouée, très tendre. Je peux m'arrêter, excusez-moi.
Non, je vous en prie, on va revenir évidemment à ce message. Je voudrais demander à Shirin Ardakhani, dans le fond, est-ce qu'on a des éléments pour comprendre pourquoi le régime l'a arrêté, lui en particulier? Pourquoi il a arrêté également Cécile Kohler et Jacques Paris? Ou l'arbitraire, c'est aussi le hasard et c'est incompréhensible pour nous, vu de France?
Alors, déjà un mot sur ce qui vient d'être dit. Évidemment, Olivier, on a pu l'entendre. Il est évidemment dans une démarche aujourd'hui de reprendre possession de son récit. Mais je crois qu'il est aussi très affecté psychiquement. Il est aujourd'hui dans une détresse qui l'a justement poussé à sortir du bois, puisque dans un premier temps, il n'a pas souhaité médiatiser son dossier. Mais c'est cette détresse psychique, parce que aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude sur sa santé qui se dégrade, sa santé psychologique. Et là, vraiment, il y a urgence, il y a un péril. C'est d'ailleurs ses proches, ses amis qui s'en alarment. Et donc, je crois que c'est aussi ça, c'est à l'aune de cela qu'il faut lire son message. Alors, pourquoi est-ce que Olivier et pas les autres? L'arbitraire, c'est évidemment quelque chose qui frappe sur n'importe qui. Évidemment qu'il y a un délire paranoïaque au plus haut niveau sécuritaire de l'État iranien, surtout dans la période qui était celle dans laquelle a été arrêté Olivier. Et on sait que le mouvement Femmes, Vie, Liberté n'a pas aidé en cela. Mais il faut bien savoir que Olivier est innocent de toutes les charges. Et il faut le rappeler, et il continue de le rappeler. Il est innocent de tout. Et même quand on fait douter de l'innocence parce que vous êtes soumis chaque jour, et c'était le cas d'Olivier dans les premiers mois de sa détention, à des interrogatoires qui l'amenaient à finalement finalement lui-même douter de la raison pour laquelle il était là. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que j'ai fait un pas de travers. Et c'est bien cette torture psychologique qui amène finalement à douter de vous. Mais il le rappelle, il est innocent de tout. Il a été condamné par un tribunal révolutionnaire à une peine de 5 ans d'emprisonnement en février dernier, avec des garanties de procès qui n'ont pas été équitables. Il n'a pas été en mesure de se défendre utilement avec son avocat sur place. Donc il faut bien comprendre que c'est dans ces circonstances aujourd'hui qu'il est privé de liberté et qu'il n'a eu d'autre choix que de briser cette loi du silence avec les moyens qui étaient les siens.
Thérèse Grondeau, pourquoi votre fils a-t-il souhaité garder l'anonymat durant 2 ans et 2 mois et pourquoi a-t-il souhaité, il y a un mois, sortir de cet état d'anonymat? Qu'est-ce qui l'a fait basculer?
Eh bien, tout au début, on a laissé la place à la diplomatie qui a fait tout ce qui était en leur mesure, voilà. Et puis ensuite, il a réfléchi. Et quand on est arrivé aux deux ans, le 12 octobre 2024, il a dit maintenant, c'est bon, on va lancer la médiatisation. Donc depuis, ses amis travaillent à ça et voilà, c'est lancé.
Et pourquoi parle-t-il au nom de deux autres otages? Je rappelle leurs noms, Cécile Kohler et Jacques Paris.
Parce qu'ils sont français et qu'ils se sentent, solidaires. Et ils se sentent solidaires, c'est très important dans tous ces messages. Toujours, il parle de Cécile et de Jacques. Il ne les connaît pas, en fait. Il ne les connaît pas, simplement, il sait qu'ils sont là. Et ça le perturbe beaucoup.
Fariba Adelka.
Oui, en fait, se rappeler, quand on est dans la même situation, effectivement, cette solidarité très admirable. Mais je veux rejoindre aussi les propos de Schillinger, parce qu'en fait, c'est la durée, c'est que pour Cécile et Jacques, ça fait 2 ans et 8 mois, et ils sont dans une situation absolument intenable en comparaison avec la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui Olivier, parce qu'eux, ils sont dans ce qu'on appelle les cellules individuelles, enfin confinement un peu.
Ils sont dans une situation beaucoup plus dure, effectivement.
Oui, un peu vraiment des petites cellules. Alors qu'Olivier, par chance, excusez-moi si on peut parler d'utiliser ce genre de mots, et à Shiraz, il était avec des Afghans. Qu'on les appelait des Daeshi puisqu'ils avaient été accusés d'avoir intervenu dans le bombardement de cette mausolée de Shah Cheral. Et à Téhéran, il est dans ce qu'on appelle le quartier numéro 4. En fait, le quartier des femmes, c'est le quartier 5. Le 4 et 6, ce sont les quartiers pour les hommes, où ils sont les hommes, à la fois politiques, mais aussi les délinquants économiques et financiers. Donc il est, d'abord, il y a l'accès à une bibliothèque, donc c'est très différent. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à parler de cette force qu'il a, ce garçon, d'utiliser les moyens qui sont à sa disposition. Donc, il est avec les financiers. Donc, d'une certaine façon, on peut dire, on appelle ça la délinquance économique ou financière en Iran, c'est la première cause d'incarcération, et c'est le plus important. Mais en même temps, c'est très différent des droits communs. Ça veut dire il ne risque pas du tout, comme on connaît lui aussi, qui était incarcéré dans le même lieu. Donc, c'est un lieu très... on peut dire que dans le cadre de prison, il ne risque pas d'avoir des surprises désagréables avec les gens qui l'entourent, parce que ce sont des gens qui ont fait du détournement des sommes faramineuses autour et qui dépensent un argent fou et qui faisaient parvenir même des repas dans le quartier des femmes, par exemple. Donc, c'est là où on entendait toujours la musique à fond de la caisse lors des fêtes, etc. Donc, il est évidemment en prison, mais simplement je tiens à dire qu'il est dans un lieu où il est entouré, l'accès à la bibliothèque, etc. Ce qui lui permet effectivement de garder encore cette capacité qu'il a intellectuelle, envoyer son message parce qu'il savait que je venais ici. Et j'arrêterai là-dessus pour dire que finalement, ce qu'on voit chez Olivier, comme on peut voir chez d'autres prisonnières, excusez-moi, je me base sur ma propre expérience, c'est cette volonté de ne pas se réduire à la volonté politique. En fait, d'agir comme il le fait, de s'enfoncer dans la recherche, Et pour moi, c'était exactement pareil, transformer mon milieu de détention comme un milieu d'études, ou pour Nargès et Mohammadi de chanter, etc. C'est une façon de ne pas se réduire à la volonté de pouvoir. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas intervenir sur cette décision. Là, dans la durée, c'est ça, c'est cette situation absolument, on est un peu dans l'impasse. Donc pour ne pas s'enfoncer dedans et pour ne pas peut-être être brisé plus, c'est cette façon d'inventer cette situation pour pouvoir mieux résister.
Chine Ardakhani, pourquoi dit-on de ces personnes qui sont retenues aujourd'hui
arbitrairement
en Iran, pourquoi dit-on d'elles qu'elles sont des otages et non des prisonniers politiques? Pourquoi la différence est importante?
Pour moi, la différence, elle n'est pas si importante que ça. Je vais être claire. Il y a des prisonniers politiques d'opinion. Il y a des prisonniers qui sont détenus arbitrairement. C'est le cas de Olivier, c'est le cas de Cécile. Mais en fait, il y a deux régimes possibles. Soit vous êtes condamné, vous avez la capacité de pouvoir vous défendre et il est légitime que vous vous trouviez là. Ou alors, c'est parce que votre détention, elle est arbitraire. Le droit ne pose pas de mots pour dire otage d'État. On dit juste qu'il y a des disparitions forcées. Il y a des actes de traitement inhumain et dégradant, voire des tortures psychologiques quand on soumet quelqu'un de façon extrêmement prolongée à l'isolement, comme c'est le cas de Cécile, Jacques, et dans une moindre mesure ce qui a été le cas au début pour Olivier. Mais effectivement, c'est les États ravisseurs qui vont parler d'une politique d'otage. C'est les États qui subissent par le rapt de leurs ressortissants d'une diplomatie des otages. Mais en droit, finalement, la question de la diplomatie des otages, ça n'existe pas. C'est un rapport de force politique d'État à État.
Mais justement, au-delà du droit, c'est bien des termes politiques qu'on emploie sciemment. On parle bien d'otages d'État et non de prisonniers politiques. Donc la distinction est forte, importante et même nécessaire.
Oui, alors elle est nécessaire, si vous voulez. Elle est nécessaire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le fait que Olivier soit un otage d'État, et il le dit lui-même, qu'il soit au milieu d'un chantage politique dont il est évidemment pas du tout comptable, c'est une chose. Mais les juristes, si vous voulez, ils récusent toujours cette notion de diplomatie des otages, parce que qu'est-ce que ça viendrait valider? Ça viendrait valider la stratégie selon laquelle on pourrait rançonner les vies humaines. Ça viendrait finalement absoudre le fait que on pourrait faire des concessions réciproques de façon absolument immorale, par exemple en contrepartie de la remise de notre ressortissant, en livrant par exemple des criminels iraniens, par exemple, ce qui a été le cas d'otages, par exemple, qui ont été échangés par les autorités suédoises ou les autorités belges en échange de la remise de nos ressortissants et nos compatriotes. Donc on la récuse moralement, cette question des otages. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour répondre à la question qui était celle de la solidarité, il y a aussi la culpabilité. Parce que Olivier, aujourd'hui, pourquoi il parle de Cécile et de Jacques? Parce qu'il se sent coupable, en fait, de leur sort, alors même qu'il n'a évidemment rien à se reprocher. Mais c'est ça qui est très pervers, en fait, dans la logique.
Ils se sentent coupables parce que leur quotidien est beaucoup plus difficile que le sien?
Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que le bourreau, il va toujours vous expliquer que vous êtes chanceux d'être là. Il va toujours expliquer que, finalement, Olivier, oh, mais c'est pas si mal, parce que lui, effectivement, il est dans un quartier chauffé, il a accès, effectivement, à des infrastructures, qu'il est avec des détenus qui ne vont pas l'assassiner pendant son sommeil, et que donc il devrait être heureux d'être là, parce qu'il pourrait très bien se trouver à l'isolement. Et c'est la culpabilité qui fait que Olivier, il se sent aussi obligé de parler des autres, parce que il a intériorisé le fait que peut-être que moi, je suis un chanceux. Et c'est là que le bât blesse, c'est qu'on n'est jamais chanceux d'être arbitrairement privé de sa liberté.
Thérèse Grondeau, comment est-ce que vous correspondez, comment est-ce que vous échangez avec Olivier, alors non pas au quotidien, mais d'une façon régulière? Quels moyens sont à votre disposition pour cela?
C'est assez aléatoire, mais Olivier nous téléphone. Quand il était à Shiraz, nous, les parents, on pouvait téléphoner une fois par semaine.
Je rappelle qu'il a été dans deux prisons, effectivement.
Oui, oui,
la première
oui.
à Shiraz
oui.
et aujourd'hui à Téhéran, à la prison
pendant
d'Evine.
Pendant 2 ans, il était à Shiraz. Et donc, on pouvait téléphoner une fois par semaine pendant 1 heure. Et ça, c'était bien, parce qu'on avait le temps d'échanger quand même un peu. Et maintenant, c'est très différent. On n'a pas le droit d'appeler à Evine. C'est lui qui appelle. Il a une carte de téléphone. Et il appelle, mais par contre, les appels sont très aléatoires. Ils sont courts, souvent coupés, et donc on n'a pas vraiment le temps d'échanger. Vous commencez une phrase et tout à coup c'est coupé. Bon, donc il va essayer de rappeler, mais il faut reprendre. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus difficile.
Je voudrais citer un extrait de cet enregistrement, Farid Baadelka, que vous mentionniez un peu plus tôt dans notre discussion. C'est un enregistrement qui a été commis par Olivier Grondeau à votre intention et vous nous l'avez transmis. Nous l'avons d'ailleurs posté sur la page internet de l'émission Questions du soir. Et donc j'en cite un fragment. Je crois, dit-il, je crois aussi que je ne suis pas si dédié à l'anthropologie que cela. Et les forces qui me restent, une fois mes parties rédigées, je préfère les employer à d'autres choses, à écrire des textes de fiction par exemple. C'est une autre façon intellectuelle de donner du sens, de tenir le coup, fin de citation. Qu'est-ce que cela raconte justement, ce travail qu'il continue de mener, de poursuivre, alors qu'il est en prison ?
C'est extraordinaire, c'est vraiment c'est émouvant comme témoignage, mais je crois qu'Olivier serait ça n'importe où. Mais surtout, peut-être en prison, on a une raison de plus de ne pas se réduire à cette accusation et de le contourner, de l'éviter, de ne pas y penser. C'est une façon de pouvoir faire face à cette situation. Olivier fait a passé son M1. Il a déjà un projet de M2 et un projet de thèse. Et ce qui l'intéressait dans un premier temps, en fait, Olivier nous parle qu'il est très intéressé par cette itinérance. Le voyage religieux, le pèlerinage, un peu le voyage intérieur, et que la force, enfin le fait d'avoir été en prison, l'amène sur un autre thème qui nous rapproche tous les deux, c'est entre l'articulation entre le religieux et le politique. Et là, la façon dont il le regarde, et dans son message, il le dit très bien, c'est finalement de ne pas regarder un terrain qui est exploité par l'autre, ça veut dire le religieux exploité, mal exploité par le religieux, mais comme un terrain de compétition. Parce que ça permet justement de discuter à la fois le territoire, à la fois la question de vérité ou la question de l'autorité charismatique, etc. Donc il a un regard sur le religieux. Vraiment, il m'apprend tous les jours quelque chose. Et puis le temps qu'il a pris. Attendez, c'est un message de 6 semaines. La première de
6 minutes 30.
De 6 minutes, excusez-moi. La première chose qu'il me dit au début de son message, c'est vraiment fascinant. Il me dit comme ça, j'espère que le mot que nous sommes à Evin ne serait pas quelque chose qui vous pèserait comme me rappelant mes vieux souvenirs. Donc, vraiment, c'est cette façon d'être aussi, si éveillé dans la situation, si consciente de cette situation. Donc, en fait, j'ai perdu la fin de ma phrase, mais pour vous dire qu'il travaille, et voilà, c'est ce qui m'évoque, ce que j'ai dit, c'est exactement qu'Olivier fait exactement la même chose que nous tous face à cet arbitraire qui s'acharne. Effectivement.
Je voudrais qu'on revienne sur cette diplomatie des otages avec une archive que j'aimerais vous faire entendre. Elle date de 1979. Elle était diffusée sur Antenne 2. Vous reconnaîtrez sans doute la voix de Léon Zitrone.
La situation s'est tendue ce soir à l'ambassade américaine occupée depuis ce matin par 450 étudiants islamiques inconditionnels de l'ayatollah Khomeini. Ceux-ci ne lâcheront les otages, sans américains, affirme-t-il, que si les États-Unis extradent le chat. À cette dure déclaration est venue s'ajouter la voix de la ville sainte. L'imam Khomeini soutient l'action. Les experts constituants aussi. La négociation qu'a dû ce soir entamer le chargé d'affaires américain, M. Bruce Langen, s'annonce donc difficile. Tout avait commencé ce matin vers 10h quand plusieurs centaines d'étudiants ont sauté les murs de l'ambassade sans que le service d'ordre iranien réagisse, puis ont attaqué, armés de gourdins, les bâtiments de la chancellerie, les annexes et la résidence. Après, selon eux, 2 heures de résistance, les marines américains se sont rendus et sont ce soir otages ou retenus, comme le dit Washington.
Un extrait diffusé dans le journal de Léon Zitrone, ce n'était pas néanmoins la voix de Léon Zitrone, et qui rappelle cette crise des otages américains, hein, qui a duré plus de 2 ans, de 1979 à 1981. 52 diplomates et citoyens américains avaient été otages retenus pendant 444 jours. Au fond, Chérine Ardakani, ces otages, cette diplomatie des otages, on a le sentiment qu'elle est consubstantielle à ce régime iranien. Dès la première année, dès les premiers mois de l'instauration de ce régime, il y avait déjà ce rapport aux otages qui était mis en œuvre.
Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, c'est consubstantiel. C'était l'acte constitutif parce que ça permet de constituer un contingent de réserve. C'est-à-dire que c'est un moyen de rapport de force qui permet de rappeler aux puissances occidentales que si d'aventure elles étaient audacieuses sur les mouvements ou les soutiens aux mouvements de contestation ou contre-révolutionnaires, puisque c'était la principale crainte dans les premiers mois de l'établissement de la République islamique, c'était la contre-révolution, eh bien ça permet de se constituer un vivier humain pour pouvoir monnayer et de se donner une marge de manœuvre dans des négociations qui sont plus larges d'ailleurs, qui sont par exemple aujourd'hui, pour faire un parallèle plus large sur la question du nucléaire, sur la question de la déstabilisation au Moyen-Orient, sur la question du gel des actifs, des sanctions économiques qui visent un certain nombre d'organes des gardiens de la Révolution et autres. Donc ça permet d'avoir comme ça une diplomatie du rapport de force qui s'extrait d'ailleurs du droit international. D'ailleurs en 79, il y a un précédent. Les États-Unis d'Amérique avaient saisi la Cour internationale de justice précisément parce qu'ils considéraient que cette prise d'otage était évidemment illégale et qu'elle violait les traités internationaux. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question des concessions réciproques d'État à État est toujours une impasse à la fois morale parce qu'elle écarte la question juridique du droit international, mais aussi elle donne raison à cette question du rançonnage. Et je crois que c'est heureux de se dire qu'il y a aujourd'hui une mobilisation de la société civile parce que je crois que l'opinion est importante. Je crois que le régime iranien est engagé dans une stratégie aussi de normalisation qui vise à montrer que voilà, le gouvernement nouvellement élu, le président nouvellement élu Pezeshkian, se montre comme étant un réformateur. En tout cas, il veut montrer qu'il est un réformateur. Et en même temps, quand on rappelle que c'est un État ravisseur, eh bien ça casse ce narratif de normalisation. Donc je crois que c'est important qu'il y ait cette mobilisation dans l'opinion, dans les médias étrangers, pour rappeler que eh bien, cette politique-là de prise d'otages sur des vies humaines est abjecte et qu'elle est donc incompatible avec le respect des droits humains et de la dignité humaine.
Thérèse Grondeau, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que l'État iranien peut vouloir monnayer avec le sort d'Olivier ? Est-ce que la diplomatie française vous a transmis des éléments à ce sujet ou est-ce que d'une autre façon des éléments vous sont parvenus ?
Nous n'en avons aucune idée. On n'a jamais su pour les otages qui ont été libérés. De toute façon, on ne saura jamais. Et puis, à la limite, je veux dire, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les otages revenir. Après les négociations entre États ou autre chose, ça c'est tout à fait, ça dépend pas de nous et c'est vraiment ça reste secret.
Fariba Adelka, vous-même, est-ce que vous savez les raisons qui ont poussé le régime iranien, ou non d'ailleurs, à vous libérer ? Les raisons de votre libération, est-ce que vous les avez connues un jour ou là aussi ce fut totalement arbitraire, le jour, le moment, l'instant choisi par le régime ?
Je pense que les raisons à la fois de mon arrestation et de ma libération, la grâce, en fait, je l'ignorerai toujours. Je n'attends pas, dans l'autoritarisme, connaître les raisons qui ont fait que je me suis un jour arrêtée et graciée. Hélas, graciée encore une fois, au risque de répéter, je n'étais pas acquittée. Mais là, je vais revenir sur ce qu'a dit Shirinjan, qui est à juste titre. Parlant de politique abjecte d'otages, moi je n'aimerais pas mettre la situation aujourd'hui des otages, des jeunes comme Olivier ou comme Cécile, ou comme Bernard ou comme Jacques, tous ces gens-là qui sont allés en demandant leur visa. Je ne veux pas du tout les mettre sur le même niveau que la politique d'otages des États-Unis. Je ne veux pas trouver, je ne veux pas aller à l'origine de cette politique, de penser que c'est consubstantiel, pas du tout. L'Iran était aussi souvent très responsable de ses signatures quand il était autour des tables. Il avait négocié. Les Iraniens se sont assis autour d'une table de négociation avant que Trump décide de retirer mettre son veto et se retirer de cette négociation. Donc, je fais pas une ligne de continuité entre ce début, qui est le début révolutionnaire, qui ne s'explique pas comme ça. Les 10 premières années de la révolution française, avant les condamnations avant la guerre entre Robespierre et Danton, je crois pas qu'on pourrait le lier à ce qui était après. C'est 10 ans, on ne peut pas parler d'un régime. Donc, les séparons, et comme je vais rejoindre un peu ce qui a été dit par Mme Grondeau, c'est tout simplement espérer, enfin, faire tout ce qui est possible, enfin, de se faire entendre par les Iraniens, de dire que vraiment vous êtes en train de garder des jeunes comme Cécile ou comme Olivier aujourd'hui, qui, dont les formes, disons, les forces s'épuisent et qu'ils sont dans une situation psychologique très fragile, fragilisée de plus en plus. Même si par rapport à cette situation, Olivier s'en tire très bien à cause des moyens qui sont à sa disposition. Je ne le disais pas pour dire qu'ils doivent rester. Je disais tout simplement pour dire que la prisonnière ou le prisonnier ne vaut pas se réduire à politique. C'est ce que je peux, enfin, à l'accusation politique. C'est ce que je peux pas faire entendre par mon livre à la communauté iranienne, parce qu'en fait c'est ça qui est, pour nous, on ne veut pas voir devant nous un État qui nous enlève notre liberté. On veut justement s'exprimer en tant qu'individu intègre, autonome et indépendante. Et c'est par ces genres d'action qu'on l'exprime. En fait, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est tout simplement.
Chirine Ardakhani, est-ce que Olivier Grondeau, en publiant une tribune dans Le Monde, ou lorsque Narges Mohammadi donne des interviews à des journaux occidentaux, est-ce qu'ils prennent des risques important. On a du mal à comprendre, nous, en France, à oui, se rendre sûr. Compte la façon dont ces prisonniers, dont ces otages, selon les situations, peuvent accéder justement à la parole publique. Il faut nous expliquer cela.
Oui, bien sûr, pour le cas d'Olivier Grondeau et sa maman Thérèse Grondeau le dira, il a évidemment pesé longtemps, hein, le pour et le contre, à la fois de la médiatisation, mais aussi chaque mot, chaque phrase fait l'objet d'un arbitrage. Est-ce que je dois écrire de cette façon-là? Est-ce que cette formule-là n'est pas trop agressive? Quels sont les risques, les représailles immédiats? Est-ce que mon téléphone va être coupé? Est-ce que je vais être privée de la possibilité d'avoir mes parloirs avec mon avocate? Et est-ce qu'on va de nouveau me remettre à l'isolement dans les mêmes conditions de privation sensorielle que Jacques et de Cécile? Tout ça, évidemment, c'est possible.
Mais comment fait-il passer cette tribune au journal Le Monde?
Bah parce qu'il y a des amis, des collègues, des gens qui aussi vont s'investir, qui vont être à l'autre bout du téléphone. Ça va être quasiment un travail de dactylo. Hein. On va phrase par phrase. Il y a des gens qui sont d'ailleurs de très grands. Il y a des romanciers, des poètes, des libraires. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que finalement toute cette micro-société, tous ses amis, toutes les personnes qu'il a pu rencontrer quand il était en prépa, quand il a fait ses voyages, et bien toutes ces personnes vont se mettre au service de son expression publique. Et donc, c'est ça qui est beau aussi. Alors, on le disait en arrivant dans ce studio, c'est dommage de se rencontrer dans ces circonstances-là autour de ce plateau, mais il y a aussi une aventure humaine qui en ressort. Et dans l'horreur, dans le pire, y compris dans les conditions extrêmes que sont celles d'Olivier, bah, évidemment, on continue de vivre. Évidemment que de temps en temps, il y a ces moments-là de joie en prison. Et évidemment que la prison, c'est pas toujours un lieu où il y a, même si la réalité revient, il le dit lui-même, ce qui est dur pour lui, c'est que tous les matins, il y a des exécutions. Et les exécutions, en réalité, c'est des camarades de cellule, parce qu'il est à Evin actuellement. Et donc, il est dans le quartier avec des prisonniers politiques. Et donc, ça aussi, c'est dur de se dire que vous êtes entrecoupés par la réalité, par ces gens qui s'en vont et qui ne reviennent plus parce qu'ils sont exécutés. Et ça aussi, c'est la torture psychique qu'on décrivait tout à l'heure. Alors, évidemment, il y a ces représailles qui sont possibles. Pour le moment, il n'a pas fait état de représailles, mais c'est aussi parce que il faut comprendre la subtilité aussi des autorités iraniennes. C'est un régime qui est subtil. Les Iraniens sont joueurs d'échecs, et donc c'est pas forcément dit que les représailles arrivent tout de suite. Peut-être qu'elles n'arriveront pas, mais vous savez, pour Narges Mohammadi, c'est encore une autre histoire. Et là, je le scinde, mais beaucoup d'ailleurs, et c'est le narratif du régime iranien de dire, mais vous vous rendez compte quand même, ce prix Nobel de la paix qui peut faire tranquillement ses interviews, et puis comment est-ce qu'elle a la parole? Finalement, c'est peut-être une fausse opposante, et donc finalement, peut-être que tout va bien en prison politique, c'est pas du tout ce qu'on vous explique, on peut danser, on peut chanter, donc, voyez, la perversion,
elle est aussi à
vouloir décrédibiliser les prisonniers d'opinion et les otages d'État, en expliquant que finalement, c'est 5 étoiles à Evin.
Il y a la culpabilité aussi chez Narges Mohammadi, chez cette prix Nobel.
C'est
ou pas
Narges Mohammadi. Il n'y a pas de culpabilité, mais par contre, effectivement, il y a le fait toujours, elle le dit quand elle sort de la prison d'Evin, une partie de moi est restée parce qu'elle est actuellement en permission médicale. Mmh. Et voyez, c'est là aussi qu'il y a la perversion du régime. Sa permission médicale, elle a pris fin officiellement le 25 décembre. Et là, elle est laissée dans un statut justement de flou juridique. Et c'est justement ça qui va donner le grain à moudre à certains qui vont dire « Mais attendez, on explique que c'est un prix Nobel de la paix qui est comme ça, dissidente et qui fait l'objet d'une répression. Mais comment se fait-il alors qu'elle est laissée en toute liberté ?» C'est ça, la perversion de l'aléatoire et de l'arbitraire. C'est quelque chose qui est savamment orchestré de la part des autorités.
Thérèse Grondeau, il faut rendre hommage effectivement à tout cet entourage aujourd'hui qui participe à la médiatisation du message de votre fils. Ce tissu social, ce réseau d'amis rencontrés en prépa à travers des expériences littéraires et autres. Parlez-nous-en en quelques mots.
Voilà, c'est un groupe fantastique. Au départ, tous ne se connaissaient pas. Maintenant, ils travaillent tous ensemble. Et vraiment, ils font un travail extraordinaire pour soutenir Olivier, pour nous soutenir, nous. Et c'est fabuleux. On a gagné des enfants.
Fariba Adelka.
Moi, je voulais remercier Christian, qui, effectivement, il est l'ami le plus proche d'Olivier et qui fait passer ses messages. Mais juste un mot pour ceux qui sont les messages de prison. Vous savez, on vit au quotidien, au continu, 24 heures sur 24, sous les caméras. Donc, on est enregistré. Donc, rien n'échappe à l'œil, je dirais, des gardiens, etc. Donc, dans tous ces messages qui sont communiqués à l'extérieur, sur le net, c'est incroyable. Je trouve même des interviews réalisées. Récemment, c'était même des séances de danse qui étaient filmées de Nagasion, etc. Donc, je veux dire que rien n'échappe.
Ils sont sortis par les renseignements, d'ailleurs. Ces informations-là, souvent, elles sont sorties à dessein par les autorités iraniennes, précisément pour créer le doute. La suspicion.
Fariba,
non, mais on est très content de savoir que les prisonniers sont bien à l'intérieur, qu'ils ont.
Non, je ne crois pas que les prisonnières soient bien.
Mais, mais attendez, on n'est pas bien parce qu'on est prisonnier, d'accord? Une fois qu'on passe l'arbitraire, l'arrestation, on est entre nous, entre femmes, et qu'on peut profiter de ce temps. Bien des gens qui font des études, d'ailleurs, elles ne veulent pas être libérées parce qu'elles font des études à l'intérieur, qu'elles n'ont pas les mêmes moyens à l'extérieur. Vous savez, les mêmes geôliers qui vous arrêtent, qui vous ramènent le repas, c'est les mêmes qui vont amener les prisonnières pour aller passer leur examen, pour avoir accès à l'Internet, pour s'inscrire à l'université, pour aller chez le médecin, etc. Donc, je comprends parfaitement votre position chez Xinjiang, la question de l'arbitraire. Non, parfaitement. Mais là, il y a d'autres choses. Mais
je me permets juste de terminer. Je sais qu'il y a un débat entre vous, justement, sur la description de ces conditions de détention. Oui, on mettra sur le site de France Culture les références d'une discussion publique que vous avez eue. Je voulais simplement terminer cette discussion autour d'Olivier avec une musique, une chanson plus exactement, qui est au centre de la très très belle tribune, très littéraire, qu'il a fait paraître dans Le Monde. Une chanson intitulée La solitude est signée évidemment Barbara.
Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte et elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue. Elle est là, la solitude, la solitude.
Une chanson adorée par Olivier Grondeau. Merci à toutes les trois de cette discussion passionnante, de ce début de débat également. Chirine Ardakani, vous êtes avocate de Narges Mohammadi et d'Olivier Grondeau. Vous êtes présidente de l'association Iran Justice. Fariba Adelka, anthropologue, ancienne détenue à la prison d'Evin. Et Thérèse Grondeau, vous êtes la mère d'Olivier Grondeau. Vous êtes membre du collectif Liberté pour Olivier, animé par les amis et l'entourage d'Olivier. Nous saluons d'ailleurs votre courage et nous espérons évidemment que votre fils Olivier retrouvera rapidement la liberté. Merci à toutes les trois.